Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici à nouveau ensemble en ce dernier jour de la semaine pour nos lectures en liberté et la suite du récit de Éric Vuillard. L'ordre du jour. Décidément, elle est longue cette journée du 11 mars. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'aiguille de l'horloge au-dessus du bureau de mi-classe continue, imperturbable, son minuscule travail de verre à bois. Ce n'est pas un foudre de guerre, mi-classe. Il a laissé Dollfuss installer sa petite dictature en Autriche et il a pu conserver sans dire un mot son poste de président. On raconte que sur les violations de la Constitution, Miklas, en privé, émettait des critiques. La belle affaire. Et pourtant, c'est un type curieux, ce Miklas. Puisqu'au pire moment, vers 2h de l'après-midi, le 11 mars, lorsqu'une sainte pétoche commence à gagner tout le monde, tandis que Chouchnig dit oui, 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 à tout bout de champ, voici que Miklas dit non. Et il ne dit pas non à 3 syndicalistes, à 2 patrons de presse, à une escouade de gentils députés sociaux-démocrates, il dit non à Adolf Hitler. Drôle de bonhomme, Miklas. Lui qui était si falot. Un simple figurant, président d'une république défunte depuis 5 ans, voici qu'il se rebiffe. Avec sa grosse bouille de notable, sa canne, son complet, son chapeau melon et sa montre à gousset, il ne sait plus dire oui. L'homme n'est jamais sûr. Un pauvre bougre peut soudain aller creuser tout au fond de lui-même, il y trouve une résistance absurde, un petit clou, une écharde. Et voilà qu'un type, apparemment sans grand principe, nigo sans amour propre, se cabre. Oh, pas longtemps, mais tout de même. La journée serait encore longue pour Miklas. Dans un premier temps, après des heures de pression, il finit par céder. Les nazis sont soulagés. Eux, qui roulent sur les tapis rouges avec leurs tanks, il souhaitait absolument obtenir l'accord de Miklas. Oui, Chouchnig peut démissionner, ça va, je ne reviendrai pas là-dessus. Surprenante, Paline dit. D'autant qu'à peine donné son consentement vers 19h30, à peine Chouchnig tombé dans les oubliettes de l'histoire, tandis que les nazis rassurés s'apprêtent à sabrer un mousseux chatoyant pour l'intronisation de Seyss Inquart, le bon Miklas les tire par la manche à 19h30 pour leur dire que s'il a donné son accord à la démission de cette panouille de Chouchnig, en revanche, il refuse catégoriquement de nommer Seyss Inquart. Il est 20h bien tassé. Alors les Allemands qui, comme on dit dans les manuels, tenaient par-dessus toute autre considération à conserver les apparences afin de ne pas effaroucher la communauté internationale, qui bien sûr ne se doute de rien, là de menacer Miklas, décident de passer outre. Tant pis si Seyss Inquart n'est pas encore chancelier, c'est en tant que ministre de l'Intérieur qu'on va le mettre à contribution. Afin qu'on puisse ordonner à la Wehrmacht de passer la frontière autrichienne sans trop laisser l'impression de transgresser les règles de droit. On demande à Seyss Inquart de bien vouloir inviter les Allemands dans son beau pays et de le faire vite et officiellement. Oh, bien sûr, il n'est que ministre, mais puisque le président Miklas ne veut pas le nommer chancelier, il faut un peu bousculer le protocole. On a beau être à cheval sur le droit constitutionnel, les circonstances sont impérieuses, rien ne prévaut contre elles. On attend donc l'appel, le petit télégramme, par lequel le ministre de l'Intérieur va demander aux nazis de venir lui prêter main forte. Il est 20h30. Rien ne se passe. Le mousseux s'évente dans les flûtes. Mais qu'est-ce qu'il fout, nom de Dieu ? On espérait que ça irait vite, qu'il se dépêcherait d'écrire son petit télégramme et qu'on pourrait enfin aller dîner. Hitler est hors de lui. Il attend depuis des heures, depuis des années sans doute. Alors, à bout de nerfs, à 20h45 exactement, il donne l'ordre d'envahir l'Autriche. Tant pis pour l'invitation de Seyss-Inquart, on s'en passera. Tant pis pour le droit, tant pis pour les chartes, les constitutions et les traités, tant pis pour les lois, ces petites vermines normatives et abstraites, générales et impersonnelles, les concubines d'Amourabi, elles qui sont, dit-on, les mêmes pour tous, traînées. Le fait accompli n'est-il pas le plus solide des droits ? On va envahir l'Autriche sans l'autorisation de personne, et on va le faire par amour. Malgré tout, aussitôt l'invasion lancée, on se dit que tout de même avec une invitation dans les formes, ce serait plus sûr. On rédige alors un télégramme, celui qu'on aurait aimé recevoir. Les amours sont ainsi faites que certains se contentent de dicter à leur maîtresse les petits billets dont ils rêvent. 3 minutes plus tard, Seyss-Inquart reçoit donc le texte du télégramme qu'il va devoir envoyer à Adolf Hitler. Ainsi, par un subtil effet de rétroaction, l'invasion se transmuerait en invitation. Le pain doit devenir cher. Le vin doit devenir sang. Mais voici, nouvelle surprise, que le très serviable Seyss-Inquart ne semble pas tout à fait prêt à vendre la peau de l'Autriche. Les minutes s'écoulent, le télégramme n'arrive pas. Enfin, au bout d'un long couloir de discussion, haussant ses lourdes épaules, fatigué, dégoûté sans doute, le vieux Miklas, vers minuit, tandis que les nazis se sont déjà emparés des principaux centres de pouvoir, que Seyss-Inquart refuse toujours obstinément de paraffer son télégramme, que dans la ville de Vienne se poursuivent des scènes de folie, émeutiers assassins, incendies, hurlements, juifs traînés par les cheveux dans les rues jonchées de débris, alors que les grandes démocraties semblent ne rien voir, que l'Angleterre s'est couchée et ronronne paisiblement, que la France fait de beaux rêves, que tout le monde s'en fout. Le vieux Miklas à contre-cœur finit par nommer le nazi Seyss-Inquart chancelier d'Autriche. Les plus grandes catastrophes s'annoncent souvent à petits pas. Déjeuner d'adieu à Downing Street. Le lendemain, à Londres, Ribbentrop fut invité par Chamberlain pour un déjeuner d'adieu. Après plusieurs années en Angleterre, l'ambassadeur du Reich venait d'obtenir une promotion. Désormais, il était ministre des Affaires étrangères. Il était donc revenu quelques jours à Londres prendre congé et rendre les clés de la maison. Car on raconte qu'avant la guerre, Chamberlain, qui possédait quelques appartements, avait pour locataire Ribbentrop. De ce fait anodin, de ce conflit curieux entre l'image et l'homme, de ce contrat par lequel Neville Chamberlain, appelé le bailleur, s'engagea en échange d'un prix, le loyer, à assurer à Joachim von Ribbentrop la jouissance paisible de sa maison d'Eaton Square, personne n'a su tirer la moindre conséquence. Chamberlain devait recevoir ce loyer entre deux mauvaises nouvelles, entre deux coups bas. Mais il faut bien que les affaires tournent. Nul n'a donc discerné là-dedans aucune anomalie. On n'a pas donné à ce petit morceau de droit romain le moindre sens, rien. Un pauvre diable jugé pour vol se voit reprocher une batterie d'antécédents. Les faits parlent soudain abondamment. Mais si les faits concernent Chamberlain, alors il faut être prudent. Une certaine décence est de mise. Sa politique d'apaisement n'est rien qu'une bien triste erreur et ses activités de bailleur n'occupent dans l'histoire qu'une note de bas de page. La première partie du repas se déroula dans la plus franche bonne humeur. Ribbentrop se mit à raconter ses prouesses sportives, puis, après quelques plaisanteries sur lui-même, il évoqua les plaisirs du tennis. Sir Alexander Cadogan l'écoutait poliment. Il divaga d'abord un long moment sur le service et sur cette petite planète de caoutchouc recouverte de feutre blanc, la balle, dont la durée de vie est très courte, insista-t-il, pas même celle d'un match. Puis il évoqua le grand Bill Tilden, qui servait comme un demi-dieu, disait-il, et avait régné à lui seul sur le tennis des années 20 comme plus personne n'y parviendrait à l'avenir. Pendant 5 ans, Tilden ne perdit pas un match, et il gagna 7 fois de suite la Coupe Davis. Il avait ce qu'on appelait alors un service boulet de canon, son physique étant absolument voué à cette sublime performance. Il était grand, maigre, avec de larges épaules et des mains énormes. Ribbentrop émaillait son intarissable discours de révélations et d'anecdotes piquantes. Ainsi, Tilden avait eu au début de sa plus prolifique série de victoires un bout de doigt amputé. Il se l'était malencontreusement écorché au grillage. Après l'opération, il joua mieux encore, comme si ce petit bout de doigt avait été une erreur de la sélection naturelle que la chirurgie moderne avait corrigée.
Peut-être espagnol, comme dans un parfum d'alcool. Nous partirons cœur à l'envers, nous partirons, je vous le jure. Nous raviverons la blessure pour suivre le fil des nuages, se perdre dans le paysage. Mais les trains roulent à l'envers, où l'on voit danser les corbeaux entre les bras des échafauds. Au bord des lèvres de la mer, ils ont coupé la rose blanche, sa tête a roulé sur la planche et cousu d'un fil de douleur l'étoile à la place du cœur. Chercher la place où reviendront nos amours un jour. S'aimera papier perdait ses couleurs. On y voyait battre des fleurs dans le demi-jour incarnat. Il pleut des cordes de guitare et l'on entend geindre les gars. Au fond, dans le jour incertain, les mains rouges des assassins. On doit suivre la trace, aller toujours garder la place où dormiront nos amours un jour. Il faut suivre la trace, aller toujours chercher la place où reviendront nos amours d'un jour.
Nous revenons donc au récit de Éric Vuillard, l'ordre du jour après ce moment musical.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Puis Ribbentrop parla un peu de lui, de son jeu à lui. Sir Cadogan en avait à vrai dire affreusement marre de ses histoires de tennis et il écoutait le ministre du Reich en souriant. Madame Chamberlain s'était elle aussi fait piéger en début de repas et subissait ce flot de paroles poliment. Ribbentrop évoquait à présent son séjour de jeunesse au Canada. Lorsqu'en chemise et pantalon blanc, maltraitant ses mocassins sur les cours, il servait des aces presque à volonté. Il alla jusqu'à se lever et à mimer un lob et il faillit renverser un verre. Mais non, il le rattrapa à temps. Et cela passa pour une facétie. Il se remit un moment à parler de Tilden. Des 12 000 personnes venues le voir jouer vers 1920, ce qui était un record absolu pour l'époque, et demeure encore aujourd'hui un chiffre effrayant. Mais surtout, il était resté number one, répéta Ribbentrop à plusieurs reprises. Il était resté number one pendant de longues années. Dieu merci, le plat de résistance arriva. En hors-d'œuvre, on avait servi des charentais en glace. Et Ribbentrop avait englouti le sien sans y prêter la moindre attention. Le plat principal était une poularde de louants à la Lucien Tendret. Churchill fit un compliment. Et peut-être pour s'amuser de Ribbentrop et taquiner Cadogan, il relança le ministre du Reich sur le tennis. N'avait-il pas été comédien à Broadway, ce Bill Tilden, et auteur de deux romans exécrables, dont l'un s'appelait « La route fantôme » et l'autre « Le punch dégonflé » ou quelque chose de ce genre ? Ribbentrop l'ignorait. Il ignorait au reste beaucoup de choses sur Tilden. Le repas continua ainsi. L'ambassadeur du Reich semblait tout à son aise. Il avait d'ailleurs été remarqué par Adolf Hitler pour son aisance et son élégance old-fashioned et sa courtoisie au milieu de ce qu'était le parti nazi, un ramassis de bandits et de criminels. Son attitude hautaine accordé à un fond de servilité parfaite, l'avait propulsé jusqu'au poste de ministre des Affaires étrangères, poste envié. Il se trouvait alors, ce 12 mars 1938 à Downing Street, au sommet de ce que la vie lui réservait. Il avait débuté sa carrière professionnelle comme importateur de champagne Mumps et Pommery, et Hitler l'avait envoyé en Angleterre afin de faire du lobbying pour le Reich, de sonder les cœurs et de glaner de ci de là quelques informations. Il ne cessa jamais, durant cette période troublée, d'affirmer à Hitler que les Anglais étaient bien incapables de réagir. Il encourageait toujours le fourreur à poursuivre les actions les plus téméraires, flattant ses penchants mégalomanes et brutaux. C'est ainsi qu'avait franchi les étapes de la gloire nazie celui qu'Hitler, à son insu, appelait parfois le petit vendeur de champagne. Tant les préjugés sont tenaces, même parmi les plus profonds destructeurs de la société. Au beau milieu du repas, comme le rapporte Churchill dans ses mémoires, un employé du Foreign Office se fit introduire. Peut-être était-on en train de se partager une dernière cuisse de poularde, à moins que l'on en fût aux corniottes de fromage blanc accompagnées de limonade, ou encore qu'on ne dégustât une tarte au Cheyenne. 200 g de farine, 100 g de beurre, un œuf ou deux, une pincée de sel, un peu de sucre, un quart de litre de lait, de la semoule et de l'eau pour délier tout ça. Je vous passe les détails de la garniture et de la cuisson. Car on cuisinait souvent des recettes françaises à Downing Street. Le Premier ministre en était friand. Et après tout, pourquoi ne pas se mêler ainsi de cuisine ? On raconte bien quelque part dans l'histoire auguste que jadis le Sénat de Rome délibéra des heures sur la sauce d'un turbo. C'est donc entre deux tintements de fourchette que l'envoyé du Foreign Office remit discrètement une enveloppe à Sir Cadogan. Il y eut un silence gêné. Sir Cadogan semblait lire très attentivement. On se remit lentement à parler. Ribbentrop fit comme si rien ne s'était passé. Il susurra deux ou trois compliments à la maîtresse de maison. C'est alors que Cadogan se leva et remit la note à Chamberlain. Cadogan ne semblait ni surpris ni contrarié par ce qu'il venait de lire. Il pensait. Chamberlain lut à son tour, l'air préoccupé. Pendant ce temps, Ribbentrop continuait son numéro de pipelette. Le dessert venait d'être servi. Des fraises des bois cardinalisées, comme Escoffier savait les faire, un vrai délice. On les mangea avec ferveur et Cadogan reprit sa place, remportant la note. Mais Churchill, ouvrant l'un de ses yeux de cocker et le tournant vers Chamberlain, lui remarqua un pli sévère entre les yeux. Il en conclut à une nouvelle préoccupante. Ribbentrop, lui, ne voyait rien. Il s'amusait, sans doute tout à sa joie d'être à présent ministre. Sur l'invitation de Madame Chamberlain, on passa au salon. On servit le café. Ribbentrop se mit alors à parler des vins français, sa spécialité. Il entretint ainsi un long moment une conversation languissante. Pour illustrer on ne sait plus quel propos, il se saisit d'une flûte invisible postée au sommet de son invisible pyramide de verre et porta avec panache un toast. La flûte invisible était fraîche. Le champagne invisible faisait 6 degrés, température idéale. Son couteau à dessert tapote sur la flûte. Ribbentrop hoche la tête. Souris. Dehors, il a plu. Les arbres sont mouillés, les trottoirs brillent. Les chambellans manifestent leur impatience, mais poliment. On ne peut pas abréger une réception de ce genre avec le ministre d'une puissance européenne. Il faut du tact, trouver l'occasion de se retirer. Bientôt, les invités eurent sans doute eux aussi le sentiment qu'il se passait quelque chose et qu'une conversation souterraine se tenait entre chambellan et sa femme, qui enveloppait de plus en plus de protagonistes Cadogan, Churchill et son épouse, ainsi que quelques autres. Il y eut alors une première vague de départ. Mais les Ribbentrop restaient, inconscients de la gêne. Lui, surtout, que cette journée d'adieu semblait enivrée et privée du tact le plus élémentaire. On s'impatienta. Là encore, très poliment, sans le montrer. On ne pouvait certes pas mettre dehors un invité d'honneur. Il fallait seulement qu'il comprît par lui-même que le moment était venu de quitter le salon, d'enfiler son par-dessus et de remonter dans sa grande Mercedes à croix gammée. Mais Ribbentrop ne comprenait rien, absolument rien, il bavardait. Sa femme venait elle aussi d'entamer avec Madame Chambellan une conversation animée. L'atmosphère devenait irréelle. Les hôtes manifestant par de très légères inflexions de voix une impatience à peine sensible, mais qu'une véritable politesse aurait dû déceler. Dans ce genre de moment, on se demande si l'on est fou ou trop scrupuleux, si l'autre éprouve la gêne qui nous semble palpable. Mais non, rien. La cervelle est un organe étanche. Les yeux ne trahissent pas la pensée. Les mimiques imperceptibles sont illisibles aux autres. On croirait que le corps entier est un poème dont nous brûlons et dont nos voisins ne comprennent pas un mot. Soudain, prenant sur lui, Chambellan dit à Ribbentrop : « Veuillez m'excuser, une affaire urgente m'appelle. » C'était un peu abrupt, mais il n'avait pas trouvé d'autre moyen de couper court. On se leva. La plupart des invités saluèrent leurs hôtes et quittèrent Downing Street. Mais les Ribbentrop s'attardèrent avec ceux qui restaient. La discussion dura encore un long moment. Personne n'évoqua la note que Cadogan et Chambellan avaient lue pendant le repas et qui flottait entre eux comme un petit fantôme de papier, une réplique inconnue que tout le monde aurait aimé entendre et qui était en fait le véritable texte de cet étrange vaudeville. Finalement, chacun se retira. Mais pas avant que Ribbentrop eût dévidé tout son lot de mondanité insipide. C'est que l'ancien acteur de théâtre amateur était en train de jouer l'un de ses rôles secrets sur la grande scène de l'histoire. Ancien patineur sur glace, golfeur, joueur de violon, il sait tout faire, Ribbentrop, tout. Même étirer le plus longtemps possible un repas officiel. C'était vraiment un drôle de loustique, un curieux mélange d'ignorance et de raffinement. Il faisait, paraît-il, d'horribles fautes de syntaxe. Et Von Neurath, pour lui nuire, tandis que passaient entre ses mains les mémorandums que Ribbentrop rédigeait lui-même à destination du fourreur, évitait soigneusement de les corriger. Voilà, nous avons terminé pour ce soir et cette semaine la lecture de ce récit « L'ordre du jour » que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.